L'enquête sur les traces des disparus s'ouvre sur une photographie de famille dont chaque membre connaîtra un destin singulier. Mais comme l'énonçait Roland Barthes, la photographie n'épuise jamais la demande du souvenir. Et celle-ci perce de manière lancinante tout au long du très beau récit publié par les éditions de l'Antilope, Dernier Ciel. Nous en parlons aujourd'hui avec son auteur, Michel Marx. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, vous enseignez l'écriture du scénario à l'ENS Louis Lumière et vous publiez donc ce récit qui appartient à la littérature mémorielle. On fouille le passé pour retracer les trajectoires de certains membres de la famille qui ont été assassinés. Mais il faut le préciser d'emblée, vous avez une particularité puisque vous mêlez deux formes de quêtes en parallèle. L'une consacrée aux disparus donc, et l'autre au retour d'anciens amis de jeunesse, du lycée. Alors, pourquoi avoir articulé votre récit autour de ces deux temporalités croisées ?
Ah, parce que je raconte la vérité. Je raconte ce qui m'est arrivé. Et c'est drôle parce que vous dites les disparus et les amis, mais finalement, les amis, c'était aussi des disparus qui réapparaissent.
Une autre forme de disparus.
Oui, mais une autre forme de disparus. Il y a un mot en Argentine, c'est pour les disparus, j'ai beaucoup travaillé en Argentine, qui est « desaparecido ». Et qui ne s'utilise que pour les disparus de la dictature. Et on ne dit pas, par exemple, « mes lunettes ont disparu », c'est banni ce mot. Il n'est utilisé que dans un sens. En effet, le mot « disparu » a un sens profond, quoi. Mais je crois quand même que ces jeunes là, qui sont devenus vieux, pour moi, avaient disparu aussi. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça a démarré dans un café, c'est ce que je raconte au début du livre. C'est vraiment une conversation avec une amie à qui je dis « Je suis en train de chercher deux petites filles qui ont disparu pendant la Shoah. » Et elle me dit « Mais tu ne vas pas les retrouver. » Et je lui dis « Oui, mais enfin, je continue à chercher. » Et en plus, j'ai des amis du lycée qui viennent de réapparaître avec ces histoires de WhatsApp et qui ont formé un groupe et tout. Ça m'embarrasse. Et elle me dit « C'est curieux. Tu cherches des disparus que, excuse-moi, je pense que tu ne retrouveras pas. » Et quand toi, on te trouve, tu ne veux pas apparaître. Il y a là une contradiction et peut-être un lien. Et c'est ce qui a donné le livre. Après, elle m'a dit que tu devrais écrire cette histoire.
À ce livre. Alors, il faut préciser que vous avez un rapport particulier à la mémoire. Vous l'explicitez dans le récit, que vous parlez d'une forme d'hypermnésie, c'est-à-dire que vous vous souvenez avec beaucoup d'intensité de certains détails, mais vous expliquez que c'est pour mieux oublier. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Alors, ça signifie qu'une hypersensibilité... pousse ou fabrique peut-être un cerveau qui enregistre. Ça me sert beaucoup pour mon travail, puisque quand des étudiants ou des réalisatrices, des réalisateurs cherchent comment écrire un dialogue et me présentent une situation, en fait, moi, je fais fonctionner ma mémoire et je ressors quelque chose qui a été enregistré et qui revient très précisément avec les mots, les couleurs, les espaces. Et j'ai cru longtemps que j'étais vraiment hypermnésique, c'est-à-dire que j'avais une mémoire incroyable. Et puis j'ai lu Freud, et j'ai découvert que avoir une mémoire incroyable, c'est sélectionner avec extrêmement de précision des instants pour en oublier d'autres, ou des espaces pour en oublier d'autres. Ce qu'on appelle au cinéma le hors-champ, c'est-à-dire que il y a un cadre, et ce qui menace à l'image au cinéma, c'est ce qu'on ne voit pas. Et où le non-dit, ce qu'on n'entend pas. Et finalement, le hypermnésique, je crois que c'est ça. C'est, dans un certain cadre, c'est extrêmement précis. Mais il y a le hors-champ, et le hors-champ, c'est ce qu'on va chercher toute sa vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous menaçait et qu'on a oublié, le trauma.
Alors, on reviendra sur cette notion de cadre et de photographie qui est vraiment très présente dans votre récit, mais j'aimerais rester un petit moment sur ce rapport à la mémoire, puisque vous expliquez aussi, et d'ailleurs avec beaucoup d'humour, que vous avez une pensée obsédante pour la Shoah, qu'elle est là en permanence. D'ailleurs, il y a un passage extrêmement savoureux que j'aimerais partager avec les auditeurs. Vous racontez lors d'un voyage banal en train avec la SNCF, après un échange avec la contrôleuse, il y a cette pensée de la déportation qui vous envahit et vous écrivez « Mais j'y ai pensé, comme à chaque fois que je prenais le train, qu'on me parlait de train, que je pensais au train, que je pensais. » Et donc, vous dites bien que cette pensée, elle est toujours là.
Envahissante.
Oui.
La première psychanalyste que j'ai vue, Et je suis resté en séance avec elle pendant 7 ans, mais pas pendant 7 ans en continu, mm-hmm. une fois par semaine. Mm-hmm. Alors, donc la première psy m'avait raconté l'histoire d'une femme qui était venue la voir parce qu'elle avait une fille qui vivait à Londres et elle n'allait pas bien, la maman. Et donc, elle appelle la psy et elle lui dit « On m'a donné votre numéro, est-ce que vous pourriez me recevoir dans les semaines qui viennent ?» Et la psychanalyste lui dit « Mais où êtes-vous » Et elle dit « Ah, je suis à la gare, je prends le train pour aller voir ma fille à Londres. » Et elle entend dans le phrasé, le ton, une émotion, et elle lui dit « Les trains ?» Et là, la femme lui dit « Mais je ne comprends pas. » Alors, elle lui dit « Mais moi, je comprends. N'allez pas à Londres, venez tout de suite. Mmh. » Et elle obéit, elle vient, et là, la psy lui dit « Alors, les trains ?» Et là, la femme soulève sa manche et il y avait le numéro de déportation. Mmh. Donc, elle n'en avait pas parlé et elle n'avait pas compris. Elle ne pouvait pas formuler que son angoisse et appeler une psy au moment où on va prendre le train, c'était par rapport à sa déportation. Donc, je crois qu'on est envahi et qu'on ne le sait pas. Moi, je viens quand même de générations qui ne racontaient pas. Mmh. Mais c'était palpalable dans l'atmosphère, dans des toutes petites choses, je ne sais pas. Par exemple, dès que les alarmes ont existé pour les appartements, mon père a tout de suite été acheté une alarme. Dès que les portes blindées ont commencé à être à la mode, ça n'existait pas quand j'étais enfant. Quoi. Dès que les portes blindées ont existé, tout de suite, mon père a été voir un serrurier pour faire installer une porte blindée. Quand on allait, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est vrai, quand on allait en vacances, et on allait dans les hôtels, et quand il y avait des Allemands dans l'hôtel, on changeait d'hôtel. Mon père ne pouvait pas, et ma mère non plus. Et donc, moi, je croyais que c'était normal. Vous savez, quand on est enfant, on change d'hôtel tout le temps et on pense que tous les gens, quand ils partent en vacances, ils changent d'hôtel tout le temps. J'avais pas fait le lien, le rapprochement. Puis c'est après, on analyse que tout d'un coup, tout apparaît comme lié, en effet, à ce drame vécu par mes parents.
Mmh. Alors, pour en revenir justement au récit, vous partez initialement sur les traces de deux petites filles. Donc deux petites cousines, Micheline et Jacqueline, vous essayez de reconstituer leur trajectoire. Alors, vous savez d'emblée qu'elles ont été déportées par le convoi 71, donc le même convoi de celui de Simone Veil, Ginette Colinca, Marceline Loridan-Ivens et Annie Stern. Et alors, c'est très émouvant parce que vous racontez qu'au fil des ans, vous les avez toutes contactées pour leur demander des informations. Et évidemment, elles ont beaucoup de mal à vous communiquer quelques informations que ce soit.
La seule que je n'ai pas contactée, c'est Marceline. Mmh. Trop tard, je n'ai pas pu la contacter. Et j'ai vu Ginette Colinca il y a une semaine. Il y avait un salon donc à la mairie du 3e, le salon de Lozé. Mmh. Et Ginette Colinca était là. Alors, je suis allé la voir et je lui ai dit « Est-ce que vous vous souvenez que vous m'avez téléphoné suite à une lettre que je vous avais envoyée ?» Et alors, elle me dit « C'était quand ?» Et je lui dis « Ah ben, c'était pendant le Covid, donc pendant le confinement, il y a 6 ans. » quoi. Elle me dit « Mais il y a 6 ans, c'est loin. » Ah, c'est touchant parce qu'elle est revenue des camps il y a 81 ans, je crois. Et ça, c'est pas loin.
Quoi. Et ça, c'est pas loin, effectivement.
Et alors, je lui dis « Mais vous m'aviez répondu une chose qui était très, très émouvante, et c'est dans le livre. Vous m'aviez dit au téléphone « Monsieur, hélas, je ne peux pas vous aider car nous étions très personnels. »
Qui est une formulation
assez spéciale. Alors, elle me regarde, donc c'était la semaine dernière, et elle me dit « Ah oui, c'est vrai que nous étions très personnels. Vous savez que j'étais donc, dans le bloc où j'étais, où nous étions 7, où j'étais avec 7 personnes, je crois. » Et elle me dit « Je serais incapable de vous dire qui c'était. Mmh. » Et à l'époque même, je ne savais pas qui c'était. Mmh. Et elle me dit « On était tellement enfermés à l'intérieur de nous-mêmes, on n'existait plus pratiquement, et donc les autres ne pouvaient pas exister. » Donc, en effet, que ce soit Simone Veil ou Ginette Colinca ou Annie Stern, toutes m'ont envoyé à la question « Mais qu'est-ce que vous cherchez ?»
Mmh, mmh. Et Simone Veil répond justement, vous le racontez dans le livre, que persisteront toujours les interrogations qui entourent la disparition de ceux que l'on a aimés. Et là, vous ajoutez une phrase extrêmement intéressante.
Est-ce qu'on peut aimer des
gens ? Moi, je n'avais pas pu les aimer, je ne les avais même pas connus. Ou alors, peut-on aimer des êtres que nous n'avons pas connus ? Et j'ai eu l'impression, en vous lisant, que toute la problématique du livre était condensée dans cette question. Peut-on aimer ceux que l'on n'a pas connus ?
Oui, et pourquoi on n'aime pas toujours ceux qu'on connaît ? C'est ça, c'est un peu, finalement, c'est ça, les copains du lycée. c'est mon rejet ou ma distance, c'est, je me dis, mais au fond, qu'est-ce que j'ai à faire avec eux aujourd'hui, quoi, alors qu'ils sont vivants, quoi. Et par contre, je voudrais rencontrer ces deux cousines. Et je porte le prénom de Micheline au masculin. Donc, j'ai demandé un jour à ma mère pourquoi on m'avait appelé Michel. Et elle m'a dit, parce que la pharmacienne avait un fils qui s'appelait Michel, il était très gentil. Et elle avait dit, les Michels sont très gentils, on t'a appelé Michel. Et j'ai dit, mais c'est quand même curieux, parce que mes frères portent aussi les noms, enfin, des noms symboliques. On est tous chargés des disparus. Et à chaque fois, la réponse a été, ah oui, voilà.
Alors, il y a quelque chose d'étonnant encore dans ce livre, c'est que vous partez sur les traces de votre famille paternelle, donc c'est deux petites cousines, mais finalement, vous allez tout à fait ailleurs. Et l'histoire que vous allez découvrir, c'est celle de votre mère, réfugiée avec sa famille à Limoges. Et cette quête détournée m'a fait penser à un aphorisme de Rabbi Nachman de Breslav qui disait « Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. » Et j'ai eu le sentiment que vous aviez besoin de vous égarer dans la mémoire familiale.
Oui, il y a gare dans égarer. Tiens,
c'est
ça. Oui. Et puis ça s'inverse aussi puisque mon frère, qui lui dit que par hasard, il est là où les parents de mon père ont été assassinés, et alors que alors, je dis un mot qui est assez dur à la fin du livre, c'est qu'il a renié notre père. Le mot est dur, mais c'est vrai que si on était un peu plus lisse, on dirait qu'il a eu des difficultés avec notre père. Et pourtant, il va le chercher. Et moi, j'ai eu des difficultés avec ma mère.
Avec votre mère.
Et donc, je cherche mon père.
Et
je trouve ma mère.
Vous trouvez votre mère. Alors, ce besoin de vagabonder comme ça dans la mémoire, on le retrouve avec un personnage, ou plus exactement un prénom, qui revient à plusieurs moments de votre récit, à plusieurs moments de votre vie, en fait. C'est comme un fantôme qui ressurgit, c'est Sophie. Alors expliquez-nous un peu qui sont toutes ces Sophies.
Il y a une dizaine de jours, une amie, mais que j'ai vue peut-être, qui était dans la classe de mon petit frère, peut-être à l'école primaire, donc ils avaient 10 ans, j'en avais 13, voilà. Je l'ai croisée, et puis... comme les amis du lycée, le temps a passé, peut-être je l'ai recroisé une ou deux fois par, je ne sais pas, un dîner ou quelque chose. Et elle a vu sur Instagram la sortie du livre, et elle m'a écrit, et elle m'a dit, c'est curieux, tu parles d'une Sophie qui a brûlé dans un incendie, et tu racontes que tu es allé voir ta mère, et qu'elle savait, et qu'elle ne t'en avait pas parlé, et elle l'avait lu dans la Gazette de Montmartre. Et elle me dit, moi aussi j'ai connu une Sophie qui est morte dans un incendie, et je l'avais appris aussi dans la Gazette de Montmartre. Si ça se trouve, c'était la même, donc je lui donne le nom de famille, et elle me dit oui, c'était elle, et elle me dit on était au lycée ensemble, je me souviens d'elle, de ses yeux noirs et du col qu'elle mettait. Et on avait un lien très très fort, elle me dit j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai appris, voilà. Et j'ai découvert que cette amie qui s'appelle aussi Sophie, enfin qui m'a écrit, est encore une Sophie. Et ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai laissé le prénom des morts et j'ai changé le prénom des vivants dans le livre pour ne pas qu'ils soient embarrassés, pour les protéger. Alors que les morts, je me suis dit, on ne leur fera plus rien, on les a déjà tués. Donc, ou ils sont déjà morts en tout cas. Alors j'ai laissé les vrais prénoms et heureusement, sinon j'aurais jamais su qu'une amie était son amie. Elle a brûlé dans un incendie et je l'ai appris peu après, une rencontre dans la rue, quelqu'un qui me dit, ah, tu avais une histoire avec Sophie il y a 20 ans. Et c'est triste. Et j'ai dit, non, c'est pas triste. C'était au contraire une belle relation. Et il ne m'y mettait pas au courant. Et elle venait de mourir dans un incendie.
C'est comme ça que vous l'appelez.
Ouais. Et ensuite, j'avais donc une arrière-grand-mère qui s'appelait Sarah, qui s'appelait même Soureleu en yiddish. Elle s'appelait Sarah Pessar, Soureleu Pesseleu, qui était un nom pas facile à porter, surtout pendant la guerre. Donc, elle a changé son prénom et elle s'est fait appeler Sophie. Et c'est ce qui l'a protégée, c'est-à-dire qu'elle a survécu, elle a survécu. Alors, est-ce qu'elle a survécu parce qu'elle se faisait appeler Sophie? Mais en tout cas, bon, elle s'est fait appeler Sophie. Et ça, j'ai fait en écrivant, quoi. J'ai compris, et c'est terrible, que cette Sophie que j'avais aimée, avec qui j'avais eu une relation très jeune, quoi. Et elle, son prénom ne l'a pas protégée. C'est-à-dire qu'elle a brûlé. Et je suis allé voir une thérapeute après avoir appris ça, sous le choc, qui me dit, mais cette Sophie qui a brûlé, racontez-moi, quoi. Et là, tout à coup, je comprends qu'il y a une chaîne de Sophie.
Vous faites le lien avec toutes les Sophies.
Oui. Et alors, je vais voir un ami à Limoges, et c'est sa femme qui m'appelle en me disant, on va faire une surprise, j'ai vu ton nom sur son téléphone, j'invite ses amis. J'ai dit, encore un rendez-vous.
Avec ses amis, pourtant, elle s'appelle Sophie. Et je lui dis,
mais vous vous appelez comment? Et elle me dit Sophie. Et je dis, d'accord, je viens.
Alors, j'aimerais qu'on aborde l'importance de la photographie dans ce récit, parce que je l'ai dit en introduction, ce livre s'ouvre et se referme sur une photographie. Mais au-delà de cela, la photographie est omniprésente, puisque vous cherchez tout au long de votre quête à photographier les individus que vous rencontrez. Et je me suis dit que ce n'était pas anodin pour un homme qui vient du cinéma, qui travaille sur l'image, de vouloir de cette façon chercher à cadrer, à fixer l'image. Alors, je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre rapport à la photographie.
Je travaille dans une école, je suis donc enseignant et je suis consultant aussi, donc surtout en Amérique latine. J'accompagne des gens qui écrivent, que ce soit des gens qui apprennent à écrire dans des écoles ou que ce soit des cinéastes qui bloquent sur un projet. Je suis là pour les aider à aller plus loin, on va dire. Et à analyser où ils pourraient peut-être développer leur potentiel davantage, ou l'affronter vraiment. Cette école où je travaille enseigne le cinéma, donc l'image en mouvement, on va dire, le son et la photo. Et je donne aussi des cours en photo, mais pas des cours techniques. Des cours sur qu'est-ce que c'est qu'une histoire à partir d'images fixes et qu'est-ce que c'est que immortaliser, parce que c'est ça qui se passe. Qu'est-ce que c'est que essayer de fixer le temps. Souvent, j'ai pensé, et je le dis en cours, parfois ça déstabilise, que au-delà des gens, au-delà des personnes, de vous, de moi, existe le temps. Il y a 8 jours, je ne vous connaissais pas, je vous aurais rencontré dans la rue, on ne se serait pas salué, quoi. Dans 8 jours, si on se rencontre dans la rue, on pourra se saluer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous. Seulement, c'est le temps. Voilà. Il y a un jeu de mots qui marche en anglais, mais c'est « in time ». C'est que être intime, c'est être dans le même temps. « In time ». J'ai souvent pensé à ça. C'est que peut-être les gens n'existaient pas. Et c'est pour ça qu'on peut aimer des gens qu'on n'a pas connus. À l'inverse. Parce que, au fond, votre question, c'est qu'est-ce que... Pourquoi la photo? Je crois que j'aurais voulu être photographe, c'est vrai. Et je l'écris au début du livre, à la fin du livre. Je suis en train de spoiler le livre. Mais c'est vrai que j'aurais voulu être photographe et que je fais beaucoup de photos et qu'il y a quelque chose... Vous parliez de Roland Barthes tout à l'heure. Il y a vraiment... Finalement, un film, c'est des photos. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que le cerveau, c'est des images on invente le mouvement, mais il n'est pas là, quoi. Il est fractionné. Et ça m'a toujours... passionné, c'est regarder une image et essayer de comprendre, essayer même de sentir quelle était l'émotion des gens au moment de la photo, voir qu'est-ce qu'ils sont devenus, vous savez les gens qui lisent sur photo, c'est quelque chose qui, c'est l'image de nous. Il y a un cinéaste qui s'appelait Samuel Fuller et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Troisième Œil, Le Troisième Visage. The third face, le troisième visage. Et il dit, on a tous 3 visages. On a le visage qu'on croit avoir quand on se regarde dans la glace le matin. Et puis on se dit, j'ai pas de cheveux blancs. Et puis, il y a le visage que les autres voient. C'est-à-dire, moi, je descends dans le métro et quelqu'un me dit, monsieur, vous voulez vous asseoir? Je dis, mais pourtant, j'ai 19 ans. Mais ça, c'est le visage que les autres veulent bien voir, comme nous. Le visage qu'on a regardé le matin, c'était le visage qu'on voulait bien voir. Et Samuel Fuller, il dit, il y a le troisième visage, celui qu'on ne voit pas et que les autres ne voient pas, et c'est celui-là qu'un artiste doit chercher. Alors moi, je dirais même qu'une personne doit chercher, mais c'est peut-être le visage intérieur, c'est-à-dire, comme on dit en yoga ou en méditation, qu'est-ce l'être interne, celui qui est profond.
Et le titre de votre livre est également... très photographique d'une certaine manière, il est très visuel parce que « Dernier ciel », il faut le dire, il correspond au dernier morceau de ciel aperçu par les déportés avant d'être assassinés. Et je trouve que c'est vraiment une image cadrée quelque part.
Oui, et puis ciel, c'est aussi finalement, quand, si on est croyant, c'est la place de Dieu aussi. Mm-hmm. Donc, hein, notre Père qui êtes aux cieux. Voilà. Donc peut-être que voilà, le Père de mon Père était aux cieux. Mm-hmm. Et c'est parti en fumée, quoi, hein, c'est ça. Donc c'est curieux, cette psychanalyse dont je vous parlais m'avait dit aussi que j'étais en Argentine en 2001, il y avait une crise très forte économique et des manifestations, un mouvement, et les gens envoyaient des fumigènes. Et l'armée, la police envoyaient aussi des gaz lacrymogènes, et donc il y avait de la fumée partout. Et l'Argentine, c'est le pays où beaucoup de juifs d'Europe ont réussi à fuir, mm-hmm. à temps, où la famille de mon père n'a pas réussi à fuir alors qu'ils auraient dû. Et il y a beaucoup de nazis qui ont été mm-hmm. protégés là-bas. Donc il y a des voisins, parfois sur le même palier, il y a mm-hmm. un nazi et un ancien déporté. Et cette psy m'avait dit, cette fumée, c'est le retour de la fumée des crématoires. Donc c'est une idée, peut-être, voilà, c'est métaphorique, mais ce n'est pas inintéressant de dire que quand on met en face des nazis et des victimes de la Shoah, la fumée revient, quoi, mm-hmm. voilà. Et monte dans le ciel. Mmh.
Alors, pour finir, j'aimerais dire un mot sur les éditions de l'Antilope, puisque vous publiez dans cette maison qui nous est chère ici à Academ. Et c'est une maison qui célèbre ses 10 ans d'existence aujourd'hui. Alors, je voulais vous demander pourquoi avoir choisi de publier aux éditions de l'Antilope et que représente cette maison d'édition pour vous ?
Alors, pourquoi l'avoir choisi ? Je crois que vous avez la réponse. Oui ?
Parce que c'est une maison d'édition juive. Comment est-ce que vous le diriez ?
Oui, oui, je le dirais comme ça. Je le dirais comme ça. Et puis, parce que c'est peut-être la taille de la maison, l'espace de cette maison d'édition. C'est-à-dire, évidemment, il y a le seuil, Gallimard, etc. Mais quand on est un débutant, mais quand on n'est pas célèbre, voilà, on sait très bien qu'envoyer un manuscrit parmi des centaines de manuscrits qui arrivent. Et donc, ce que j'ai cherché, c'était, je reviens au mot « in time », je me suis dit, mais avec qui, avec quelle maison d'édition, je pourrais trouver une intimité. Donc, j'ai regardé le paysage dans une librairie, et puis je me suis dit, mais l'Antilope, et si j'osais, non pas leur envoyer mon manuscrit, mais leur téléphoner et leur parler. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que je les ai appelés pour leur demander si mon histoire pouvait les intéresser. Alors, peut-être qu'ils ont capté une émotion aussi, le phrasé, ou je ne sais pas. Et ils m'ont dit oui, envoyez-le, le manuscrit. Et après, ça a été très rapide. On s'est rencontrés, puis ça a fonctionné. Voilà, j'étais surpris. C'était comme magique, quoi. Oui, c'était magique. Et puis la suite, c'est l'accompagnement, la relecture, le retravail, parce qu'il y a un retravail. Hein, c'est un vrai travail d'éditeur, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des vrais gens. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ça veut dire que l'idée, c'était... Donc, c'est Anne-Sophie Dreyfus qui s'occupe de la partie édition et qui m'a bien prévenu et qui m'a dit « Je ne vous oblige pas à changer les choses, je vous donne mon avis, voilà, point par point, sur peut-être la construction, l'organisation, le flux, et ça a été, ça c'est une vraie rencontre, c'est pas on va transformer votre texte, c'est est-ce que vous pourriez vous, c'est le travail que je fais moi, avec les gens qui viennent me demander comment on peut faire mieux, peut-être avec ce qu'il y a, c'est comme le montage, c'est-à-dire le drame des monteurs, c'est qu'ils ne peuvent utiliser que ce qu'il y a. Et c'est pourtant à partir de ce qui est là que... Alors Gilles Rosier, il disait la semaine dernière, ou il y a quelques jours, on peut dire à un auteur ou à une autrice, on peut dire, c'est un peu long, faut en enlever. Et puis cette personne en rajoute. Et on prend quand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas une règle à arrêter, c'est ouvert. C'est ça qui s'est passé avec eux. On déplie, voilà. Ouais. Donc c'est une aventure.
Eh bien, on est ravis que vous ayez suivi cette aventure. Je rappelle le titre de votre livre, Dernier ciel, aux éditions de l'Antilope. Merci Michel Marx.
Merci à vous.